Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 14 septembre 1822. Il est presque midi ce jour-là lorsqu'un jeune savant, manifestement en proie à une grande exaltation, pénètre dans l'enceinte de l'Institut de France, déjà situé en face du Louvre, quai de Conti. Marchant d'un pas que l'on imagine rapide, il se dirige en hâte vers le bureau de son frère, situé dans la bibliothèque. Il a une grande nouvelle à lui annoncer. Enfin, ses années de recherche acharnées ont payé. « Je tiens l'affaire », lui déclare-t-il triomphalement en faisant irruption dans la pièce. Avant, selon la légende familiale, de s'évanouir d'épuisement. Et quelle affaire il tient là, en effet. L'homme de 31 ans à peine s'appelle Jean-François Champollion et il vient de réussir là où tant d'autres ont échoué. Il a percé le mystère des hiéroglyphes. À l'aube du 19e siècle, plus personne, y compris en Égypte, ne sait déchiffrer les textes gravés dans les tombeaux des pharaons ou sur les vestiges des temples antiques. La compréhension des hiéroglyphes est perdue depuis la fin de l'Empire romain. De l'immense civilisation qui utilisa cette écriture sacrée pendant près de 3 millénaires, on ne sait presque rien. L'égyptologie n'existe pas encore. Mais une découverte archéologique majeure, en juillet 1799, lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte, va tout changer. Dans la ville côtière d'El Rachid, que l'on francise en la désignant sous le nom de Rosette, l'armée napoléonienne, occupée à fortifier la ville pour se défendre des Anglais, fait une découverte fortuite. Une lourde dalle de basalte sur laquelle est inscrit un texte transcrit en 3 écritures, en grec, en égyptien démotique et en hiéroglyphe. Rapidement, la pierre, désormais dite de Rosette, suscite l'espoir de la communauté scientifique. Voilà enfin une piste pour percer le secret de l'écriture sacrée des pharaons. Mais il faudra attendre 23 ans pour que cet espoir se réalise. Il faudra attendre Champollion, car à l'époque de cette découverte, il n'est encore qu'un enfant de 9 ans. Né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le Lot, le petit Jean-François Champollion, dit le jeune, pour le différencier de son frère, montre très vite un goût prononcé pour les langues et les lettres. À Grenoble, où il rejoint son aîné à l'âge de 10 ans, il est un élève brillant et précoce, qui étudie le grec et le latin, mais aussi l'hébreu, l'arabe, le syriaque, le chaldéen. Puis plus tard, le persan et le copte, la langue des chrétiens d'Égypte. Il est si précoce d'ailleurs qu'à 16 ans, il devient le plus jeune membre de l'Académie des arts et des sciences. 2 ans plus tard, il est nommé professeur d'histoire ancienne. À Grenoble également, Champollion fait la connaissance des anciens de l'expédition d'Égypte, des membres de la commission de savants qui accompagnèrent Bonaparte lors de sa campagne militaire en 1798. Ces fréquentations vont faire naître chez lui une passion dévorante pour la civilisation des pharaons. Très vite, dit-on, il se jure qu'il sera celui qui parviendra à révéler au monde les mystères de cette civilisation perdue. Mais l'affaire n'est pas gagnée d'avance. Champollion n'est pas le seul à courir après ce Graal. C'est même le Benjamin de la course qui se joue depuis la découverte de la pierre de Rosette. Le plus célèbre et le plus sérieux de ses concurrents est anglais. Il s'appelle Thomas Young. Et il possède un avantage de taille. Il a accès à la véritable pierre de Rosette. Ce qui n'est pas le cas de Champollion, qui lui doit se contenter d'une copie. Oui, figurez-vous que Champollion n'aura jamais l'occasion de voir la vraie de ses propres yeux. Car si ce sont les Français qui ont découvert la pierre de Rosette lors de la campagne d'Égypte de Napoléon, elle est désormais entre les mains des Anglais. Et oui, en 1799, Napoléon l'aura cédée lors de sa fuite d'Égypte, en échange de son sauf-conduit vers la France. Thomas Young, donc, a une longueur d'avance, longueur accentuée en 1815 par un épisode politique qui va mettre à mal les recherches de Champollion, la Terreur blanche. Les frères Champollion sont tous deux de notables soutiens de Napoléon. Après son retour de l'île d'Elbe et sa tentative de reconquête du pouvoir, ils font, comme beaucoup d'autres, l'objet de mesures d'éviction de la part du nouveau gouvernement. Assigné à résidence, Champollion sera contraint de stopper net ses recherches pendant près d'un an. C'est à Young qu'incombe les premières avancées notables. C'est lui, par exemple, qui suggère le premier que l'écriture démotique est un mélange entre hiéroglyphes et alphabet. Une sacrée avancée. Bon, toutefois, et ce n'est pas le chauvinisme qui parle, l'anglais n'est jamais parvenu à élucider complètement les hiéroglyphes. Cette élucidation, c'est à l'obstination de Champollion qu'on la doit. Une détermination sans faille qui va, à force de travail, lui permettre de vérifier une hypothèse. Le système hiéroglyphique est complexe. Il comprend non seulement des idéogrammes, mais aussi des signes phonétiques. Et c'est là que se trouve, Mathieu, la clé du mystère. Les caractères qui le composent représentent non seulement des objets, ce sont des signes mots, mais ils peuvent aussi, selon le contexte, correspondre à des sons. Rien d'étonnant à ce que les hiéroglyphes soient restés mystérieux pendant près de 15 siècles. Soit de la fermeture des lieux païens ordonnée par l'empereur Théodose Ier au IVe siècle, jusqu'à ce fameux jour où Champollion prononça son triomphal « Je tiens l'affaire » en 1822. Ce jour, ou peut-être quelques jours plus tôt, on n'en est pas bien sûr, Champollion a reçu la copie d'une nouvelle inscription hiéroglyphique en provenance de l'un des temples d'Abou Simbel. Un cartouche contenant trois signes qu'il parvient à déchiffrer grâce à sa connaissance approfondie de la langue copte, lointaine descendante de l'ancien égyptien. L'un est idéographique, il représente le disque solaire Ré, les autres phonétiques, il se prononce Mes et S. Vous l'avez ? Je vous donne un indice. Puisque les signes se trouvent dans un cartouche, il s'agit d'un nom de pharaon, et pas n'importe lequel. Dites-le pour voir.
Ramsès,
oui, le nom du puissant pharaon. Champollion peut l'annoncer au monde. Et c'est donc ce qu'il fait quelques jours plus tard en écrivant une lettre à l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Écrit, considéré aujourd'hui comme le texte fondateur du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Le premier d'une longue liste sûrement. Malheureusement non, car Champollion mourra prématurément moins de 10 ans plus tard. Le 4 mars 1832, à l'âge de 42 ans. C'est même à titre posthume que seront publiées ses plus grandes œuvres à la postérité, sa grammaire égyptienne et son dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique. Mais il ne meurt pas avant d'avoir réalisé son rêve, rêve qui d'ailleurs peut-être a causé sa mort, celui d'un voyage en Égypte. Car oui, Champollion a réussi l'exploit de déchiffrer les hiéroglyphes, non seulement sans avoir jamais vu la pierre de Rosette, mais aussi sans être jamais allé au préalable en Égypte. Il pose pour la première fois les pieds sur le sol égyptien le 18 août 1828. Il est à la tête, avec l'égyptologue italien Hippolyte Rossellini, de la toute première expédition scientifique envoyée dans la vallée du Nil. Durant les 16 mois que dure ce voyage, il a maintes fois l'occasion de vérifier sur le terrain que son système de lecture des hiéroglyphes fonctionne bien. Multipliant les dessins et les relevés épigraphiques, Champollion ramène également pour le Louvre plus d'une centaine d'objets antiques ainsi que la promesse du vice-roi d'Égypte de céder à la France les obélisques de Louxor. Seul l'un d'entre eux fera finalement le voyage jusqu'en France. Il trône depuis 1836 au centre de la place de la Concorde à Paris. Champollion est couronné à son retour en France par deux nominations exceptionnelles, celle de membre de l'Académie des Inscriptions et des Lettres et celle honneur suprême de premier professeur d'égyptologie au Collège de France en 1831. Mais vous l'avez compris, il n'en profitera pas longtemps.
Et non.
La mort le rattrape un an plus tard. L'a-t-il ramené dans ses bagages ? Peut-être. L'hypothèse d'une infection parasitaire contractée en Égypte est avancée. On parle aussi d'une attaque liée à l'épuisement professionnel. Plus récemment, un chercheur de l'Imperial College de Londres lui impute son décès à la maladie de Charcot. Il semble, en tout cas, que ce mystère-là restera lui entier.
Europe 1, historiquement vôtre.